Je voudrais, avant la prière, lire de l'Évangile de Jean, le chapitre 7. Levons-nous pour la lecture. Jean, chapitre 7, du verset 16 jusqu'au verset 18. Alors Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si c'est moi qui parle de mon propre chef. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable. Et en lui, il n'y a point d'iniquité. Est vrai, et en lui, il n'y a point d'iniquité. Prions. Père céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous aussi, nous voulons compter à ceux qui ne cherchent pas leur propre gloire, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne se pensent pas eux-mêmes, mais qui te présentent toi et toi et toi seul. Nous voulons écouter ta parole. Nous te demandons de nous parler. Glorifie ton nom, rencontre-nous tous nouvellement. Tu connais nos besoins, tu connais les difficultés, les problèmes, les maladies, les problèmes de toutes sortes, de différentes sortes. Nous venons à toi, bien-aimé Seigneur, que tu puisses, pendant la prédication, venir à nous. Produis en nous la foi dans nos cœurs, la foi en toi. La foi que tu tiens ta parole. La foi que tes promesses sont oui et amen. Et que tu es présent. Bien-aimé Seigneur, nous remettons cette réunion sous le couvercle du sang de l'agneau. Pour que l'ennemi n'ait aucun droit, que ce soit sur notre esprit, sur notre âme ou bien sur notre corps. Mais que tu puisses, Seigneur, agir librement parmi nous et te manifester, te glorifier. Nous te remettons toutes choses et te demandons la conduite de ton Saint-Esprit. Ô Seigneur, nous avons besoin de toi, toujours plus qu'auparavant. Sois proche de nous, sois présent, de manière que chacun puisse te ressentir, que nos cœurs brûlent parce que tu parles avec nous, parce que nous t'avons compris et entendu ton appel. Ô Seigneur, bénis-nous. Sauve ceux qui sont perdus. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui ont besoin de délivrance. Conduis-nous par ton esprit. À toi seul, nous donnons toute l'honneur, toute la gloire, la louange, dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Croyons-nous tous cela de tout notre cœur? Ça, nous pouvons le croire. Ça, nous pouvons le croire. Tout est possible parce que Jésus est ici. S'il est ici, alors tout ira bien. Alors, les questions auront une réponse. Les problèmes seront répondus. Les perdus seront sauvés, les malades seront guéris. Il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Croyons-nous cela de tout notre cœur? Amen. Attendons-nous à ce qu'il le fasse? Amen. C'est nécessaire. On doit l'attendre. On doit s'attendre qu'il le fasse. Si nous nous attendons à ce qu'il ne le fasse pas, alors il ne le fera pas. Mais si nous nous attendons à ce qu'il le fasse, alors nous mettons notre confiance en lui. Et alors, il le fera parce qu'il l'a promis. Il est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Vous avez sûrement remarqué que la chorale n'a pas chanté aujourd'hui. C'est le temps des congés et ils ne sont pas tous ici. Et nous avons aussi beaucoup de visites de Krefeld. À la grande surprise, j'ai vu le frère Rousse déjà ici, le frère Siegfried, le frère Gaidach. Je ne sais pas si certains d'autres sont encore là de Krefeld. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. As-tu une parole sur le cœur qui brûle? Tu refuses? Mais j'aurais préféré que tu viennes et que tu prêches puissamment. Alors je pourrais un peu me reposer. Je suis aujourd'hui, j'ai atterri aujourd'hui à 11h20 à Krefeld-Kloster et nous avons eu de belles réunions en Angleterre. Hier soir, encore la dernière, à Birmingham. Et je dois dire que le Seigneur fait toujours de grandes choses. Il appelle des hommes à sortir de toutes les couleurs. Plusieurs m'ont dit du teint noir, du teint blanc, de toutes les origines. Ils m'ont dit, ils m'ont serré les mains, ils m'ont dit que je te remercie de ce que tu as été ici aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous voyons que le Seigneur, partout, appelle les siens, à les siens, et il les appelle à sortir. Nous avons aussi d'autres exposés qui aussi sont glorieux, sont merveilleux. Nos deux frères, le frère Fer et le frère Graf, étaient dans la République démocratique allemande et ils sont revenus avec un exposé aussi merveilleux, encourageant de ce que Dieu fait là-bas. Vous savez, il y a toujours deux possibilités. On peut parler de ce que le diable fait. Et alors, il se réjouit quand, n'est-ce pas, on lui met tout le temps à sa disposition et ainsi on lui apporte l'honneur. Mais il y a une autre possibilité, de parler seulement de ce que Dieu fait. Et alors, le ciel entier, tout le ciel se réjouit quand on rend témoignage de ce que le Seigneur fait. Et nous voulons être occupés à cela. Je me tiens en cela à la parole de mon Seigneur. Il a dit, vous serez mes témoins. Et nous n'avons pas un autre devoir que d'être témoins de ce qu'il fait. Il a dit, commencez à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et parce que nous avons expérimenté plusieurs choses avec le Seigneur, nous pouvons en rendre témoignage. Bien sûr, que le message divin va toujours apporter une décision à prendre. Et ce sera toujours ainsi que des frères qui ne sont pas prêts à marcher sur tout le chemin avec le Seigneur, du Seigneur, et de croire toute la vérité. Et ils auront bien sûr des difficultés. Et cette fois-ci, c'est de parler un mot que j'ai reçu, une lettre de 6 pages. J'ai fait la connaissance de ce frère et il n'est pas encore prêt à prendre entièrement part à ce que Dieu fait. Et quand c'est comme ça, bien sûr, frère Franck est la cible parce que j'ai prêché plusieurs fois là-bas et le Seigneur a ouvert le cœur de plusieurs, leur a révélé sa parole. Et là, bien sûr, on est jaloux et bien sûr, et on renverse sa colère sur moi. Mais c'est comme ça avec tous les hommes de Dieu, avec les prophètes, avec les apôtres, avec la prédication de la parole de Dieu. Ils ont tous marché sur ce chemin plein d'opprobre. Et nous ne sommes attendus à rien d'autre. Il y a une chose qui est certaine, celui qui est de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Et vous pouvez me croire, des vérités en partie, nous les avons eues durant tous les temps, mais aujourd'hui, maintenant, nous avons la pleine vérité, la totale vérité. Des révélations en partie, nous les avons eues dans tous les temps. Mais aujourd'hui, nous avons la pleine révélation de Jésus-Christ. Et nous faisons encore un pas de plus. Car là aussi, il y a des experts à l'intérieur du message qui simplement, n'est-ce pas, font que sortir certaines choses de leur contexte, bien sûr. Et là, ils sont déjà tombés dans le déséquilibre et insistent sur un sujet un peu trop et sur les autres sujets un peu pas assez, etc. Que Dieu puisse accorder sa grâce, d'avoir l'équilibre jusqu'à la fin, la balance en toutes choses et de conserver l'équilibre dans tous les sujets. Il prend soin. Si nous n'avons pas de propres intentions et de propres motifs, et que ce que nous avons lu s'applique à nous, et que l'enseignement que nous apportons vient de Dieu, alors nous ne cherchons plus de propre gloire. Alors nous n'avons pas de propre programme, plus de propre programme, de propre enseignement que nous aurions à présenter. Nous n'avons plus de propre révélation, nous n'avons plus rien de propre. Mais nous avons seulement l'enseignement de celui qui nous a envoyés. Alléluia. Nous n'avons plus rien de propre et nous n'avons rien besoin d'autre. Mais il y a une chose que nous voulons. Là, nous voulons tout ce que Dieu nous a accordé par sa grâce. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement dans l'enseignement parler du sujet que nous avons spirituellement reçu plus que les autres dans différents âges, mais aussi concernant la responsabilité que nous avons liée à ce que nous avons reçu devant Dieu, aussi avec notre vie, nous tenir, n'est-ce pas, derrière ce que nous avons reçu, de mettre en pratique ce que nous avons reçu de la plénitude de la parole de Dieu, entendu de la parole de Dieu. Que ce ne soit pas seulement que nous ayons seulement écouté la parole de Dieu, mais nous puissions la mettre en pratique. Nous avons déjà chanté 3 cantiques qui, n'est-ce pas, nous invitent à venir au Seigneur. Et j'ai choisi le texte de 1 Samuel chapitre 3. Ici, nous allons lire, observer les premiers 5 et les premiers 10 versets. Nous allons aller à d'autres écritures. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. À l'époque où le jeune Samuel était au service de l'Éternel, sous la surveillance d'Élie, les révélations de l'Éternel étaient rares en Israël. Les visions n'étaient pas fréquentes. J'avais lu cette parole hier soir, et là, dans la Bible, il est écrit, les révélations de l'Éternel étaient rares, étaient précieuses. À l'époque, les révélations de l'Éternel étaient précieuses. Vous savez, quand elles étaient encore à être entendues, à être écoutées, à être apportées, elles étaient précieuses. Vous savez, quand quelque chose est en abondance, on n'estime pas trop la valeur, mais quand c'est devenu rare, alors ça devient précieux. Et je crois qu'on peut dire que les révélations de la parole que Dieu nous a accordées nous sont précieuses. Elles sont un trésor pour nous, elles sont précieuses pour nous. Car aussi dans notre temps, cela ne va pas de soi comme ça que Dieu nous ait révélé sa parole et sa volonté. Non, nous en sommes très reconnaissants de tout notre cœur. Et ici, où il est écrit « vision » dans la Bible anglaise, c'est écrit « pas de parole ouverte, pas de parole révélée », on pourrait presque traduire ainsi. Là où c'est écrit « vision » chez nous, ici, aujourd'hui, nous avons les deux. Nous avons la révélation de Jésus-Christ et nous avons la révélation des mystères de Dieu. Rien n'est resté caché. Mais maintenant, ici, nous arrivons à cette partie, en fait, là, le verset 2 est plus loin. Or, il arriva en ce temps-là, pendant qu'Élie dormait à sa place habituelle, mais ses yeux s'étaient peu à peu affaiblis de sorte qu'il ne pouvait plus voir. Restons ici un peu un moment. Vous savez, une référence ici aux dénominations. Une fois que vous avez vu les choses qui ont déjà été révélé, puis cela a diminué jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir, ni même voir dans la lumière, ce que vous avez vu à l'origine, lorsque Dieu l'a révélé. Prenons aujourd'hui, par exemple, le mouvement qui encore croit à la justification. Si tous ceux qui aujourd'hui, n'est-ce pas, croyaient à la justification, avaient la lumière et la justification telle qu'elle avait été prêchée dans l'âge autrefois, alors ils seraient voyants aujourd'hui, ils verraient aujourd'hui, ils seraient allés plus loin avec Dieu, comme il est allé plus loin dans les différentes étapes autrefois avec son peuple. Si tous ceux qui aujourd'hui croient de leur bouche, ou bien alors prêchent de leur bouche la sanctification, si eux-mêmes ils l'avaient expérimenté tel que la Bible enseigne, et ils étaient ainsi devenus une partie de la parole, alors les choses seraient différentes. Ça veut dire qu'ils seraient aujourd'hui encore sanctifiés dans la parole de la vérité, comme Jésus-Christ l'a dit. Et il le dit, n'est-ce pas, ma parole est la vérité. Sanctifie-les dans ta vérité. Encore un pas de plus. C'est tous ceux qui croient au baptême du Saint-Esprit et qui aussi en grande partie l'ont expérimenté. Eux pouvaient comprendre Romains 5 et là aussi Romains 8. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Combien parlent en notre langue et parlent à côté de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons appris de ce message? Frère Branham le disait que Dieu a restauré dans le corps du Seigneur et maintenant a rétabli. Et maintenant nous ne sommes plus dans les jours où les langues sont remuées. Là, nous sommes aujourd'hui dans les jours où la vue, l'œil est loin. Nous vivons dans un âge prophétique. Nous vivons dans l'âge de la vue, un âge prophétique, l'âge du voyant, où la parole a été révélée. N'est-ce pas? Les prophètes étaient appelés des voyants. Ils voyaient ce que Dieu leur montrait. Il y a eu le temps où les lèvres ont été remuées, où les cœurs ont été remués, ont été touchés, où les lèvres ont été touchées. Maintenant, le temps est là où tout est touché, de la tête aux pieds. Tout le corps du Seigneur, dans le restaurement total, la restauration totale de tout ce qui existait dans l'Église primitive. Dans sa forme initiale, primitive. Continuons. Le verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel dormait dans le temple de l'Éternel, là où était l'arche de Dieu. C'est beau. La lampe de Dieu. Ou bien la lampe dans la maison de Dieu, mais ici c'est écrit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe dans la maison de Dieu. Vous voyez, le Seigneur ne permettra pas que la mèche qui fume s'éteigne et ne brisera pas le conduit plié. Non, il mettra de l'huile. Il accordera la révélation pour que de nouveau la lumière soit rétablie dans la lampe. Et si Samuel dormait, il s'était allongé là dans le temple de l'Éternel, directement à côté de l'arche de l'Alliance. Un bel endroit à côté de l'arche de l'Alliance, car c'est dans l'arche de l'Alliance qu'il y avait la parole du Seigneur, qui était la parole du Seigneur, étaient les paroles que Dieu avait prononcées lui-même. Et là, maintenant, écoutez ce qui est écrit au verset 4. L'Éternel appela Samuel, qui répondit : Me voici. Il courut ensuite vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Ici, je voudrais éclaircir un point. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé et qui t'a appelé. C'est peut-être raison que nous n'avons pas de raison d'aller à un homme. Si le Seigneur nous a appelés, alors nous devons aller au Seigneur et venir au Seigneur, à lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? à tous ceux qu'il a appelés, suivez-moi. Ça, nous devons le comprendre. Élie a dit la vérité. Et il a dit à Samuel, je ne t'ai pas appelé. Va te recoucher. Et parfois, c'est comme ça. Que le Seigneur déjà nous a déjà parlé. Mais nous n'avons pas compris que c'était lui qui nous parlait et nous pensions seulement que c'était peut-être le prédicateur qui nous parlait. Non, ce n'était pas le prédicateur. C'était le Seigneur qui nous parlait. Le Seigneur qui nous a appelés. Le prédicateur, il peut peut-être vous dire, calmez-vous. Il n'y a rien à ce que vous pensez que ce serait. Repartez, vous couchez. Ça, c'est ce que Élie a fait autrefois. Il a donné ce conseil à Samuel. Va te recoucher. Avec d'autres paroles, continue à dormir. Je ne t'ai pas appelé. Mais vous savez, quand Dieu a déterminé un homme à écouter sa parole, alors il peut nous dire deux, trois fois, quelqu'un peut nous dire, pardon, deux ou trois fois, calme-toi, continue à dormir, va te recoucher. Le Seigneur, lui, il continuera à parler avec nous jusqu'à ce que nous ayons compris que c'est lui qui nous a appelés et que c'est lui qui nous a appelés pour se révéler à nous et nous adresser sa parole. Je continue à lire au verset 6, il est écrit, l'Éternel, de nouveau, appela Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Ici, nous voyons quelque chose de très merveilleux, quelque chose de glorieux. Pas un serviteur de Dieu, pas un homme de Dieu appelle. C'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui parle. Il t'a appelé. En es-tu convaincu? Le sais-tu que ce n'est pas un homme, que ce n'était pas un homme, mais que c'était le Seigneur? Combien de nous ici venons encore des églises alors que le Seigneur nous avait appelés et nous sommes entretenus avec ceux de la bouche desquels nous avions écouté la parole et nous ont dit de repartir nous coucher, de nous calmer. Et qu'il n'y a rien dans ce que nous croyons. Mais nous avions ressenti dans notre cœur. Nous avons ressenti l'appel, nous avons entendu. Mais si les autres n'ont pas entendu cet appel de Dieu, alors nous n'en pouvons rien. Mais ici, alors, la troisième fois, il est écrit ici au verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Maintenant, écoutez ce qui est écrit. Élie comprit maintenant que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie savait qu'il y a quelque chose qui doit être derrière cela. Samuel ne viendra pas une fois, deux fois, et même une troisième fois à chaque fois, et dire, tu m'as appelé. Lors de la troisième fois, Élie aussi a remarqué, a compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et ensuite, il lui donna l'instruction suivante. Je vais la lire au verset 9 et 10. Au verset 9, alors Élie dit à Samuel, va te coucher. Mais si on t'appelle de nouveau, réponds, parle, Éternel, car ton esclave serviteur écoute. Samuel s'en alla donc se coucher à sa place. L'Éternel vint, se tint devant lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Celui-ci répondit, parle, car ton esclave serviteur écoute. Quelle parole merveilleuse. Ça, nous l'avons tous expérimenté. Nous l'avons tous expérimenté et compris que c'était le Seigneur qui nous a appelés et qui a commencé à parler avec nous pour nous révéler sa parole et sa volonté. Il nous a révélé sa parole et sa volonté. Allons à Romains 13. Ici, ce soi-disant homme de Dieu a renvoyé celui que le Seigneur avait appelé à se recoucher. Il a renvoyé à se recoucher. Mais ici, dans Romains 13, nous lisons le contraire. Romains 13, verset 7, il est écrit. Romains 13, verset 7, il est écrit. Rendez à tous ce que vous leur devez. L'impôt, à qui l'impôt est dû, le péage à la douane, à qui le péage est dû, la crainte à qui la crainte est due, et l'honneur à qui l'honneur est dû. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a ainsi accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume uniformément dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je continue à lire parce que cela va ensemble. Verset 11. Et cela dans la connaissance exacte du temps, c'est-à-dire que l'heure est venue pour nous de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée et le jour s'est rapproché. Le jour approché. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Vous pouvez continuer à lire. Ici, pour moi, il s'agissait principalement de cette expression. Et cela, dans la connaissance exacte du temps. Le verset 11, c'est pas seulement du temps, mais aussi du message. Du plan divin de Dieu, du salut. Celui qui reconnaît le temps, il reconnaît aussi la parole que Dieu a déterminée et promise pour ce temps. Et celui qui reconnaît la parole promise, il s'attendra à ce que Dieu l'accomplisse. Et ici, il s'agit de plus qu'un peu de connaissance de notre côté. Mais ici, cela dans la connaissance exacte du temps. C'est-à-dire que l'heure est venue pour nous maintenant de nous réveiller du sommeil. Pour les autres, mais pour nous. Est venue pour nous, pas pour les autres. Pour toi et pour moi. Il y a eu des heures et des jours. Il y a eu des époques. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu des heures pour Israël, des événements et particuliers, aussi dans l'Église et aussi dans l'histoire de l'Église. Il y a eu des époques particulières. Mais maintenant, c'est notre heure, c'est notre temps. Dieu avec nous et pour nous révéler sa parole et sa volonté. Et cela dans la connaissance exacte du temps, c'est-à-dire que l'heure est venue pour nous de nous réveiller. Pas pour Moïse, pas pour Abraham, mais pour nous qui vivons maintenant. Et vous savez, la parole de Dieu est toujours actuelle, elle a été écrite, mais elle s'ajuste, elle s'applique à tous les temps. Si aujourd'hui nous marchons dans l'Esprit de Dieu et reconnaissons la parole de cette heure, alors, ça veut dire que Dieu nous a accordé sa grâce. Alors, ça veut dire qu'il nous a appelés. Sinon, nous nous serions recouchés et nous nous serions réendormis. Je parle maintenant spirituellement. Mais là, il y a une parole dans Matthieu 25 et les vierges se sont endormies, tous se sont endormis tous. Ensuite, l'appel a retenti. Levez-vous pour aller à la rencontre de l'époux. Voici, l'époux vient. Levez-vous pour aller à sa rencontre. Il faut qu'il y ait une prise de conscience spirituelle dans l'épouse. Qu'elle se réveille. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'avoir reçu la parole de Dieu révélée, qu'elle nous ait été révélée. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. On doit se réveiller. Une prise de conscience. Nous devons aussi personnellement, aussi en tant qu'Église, avoir la relation avec Dieu personnellement. Et que le contact soit rétabli les uns avec les autres. Et le contact avec Dieu. Les uns avec les autres et avec Dieu. De ce contact, de cette communion, tout le reste, par l'Esprit de Dieu, conformément à la parole de Dieu, sera produit. Mais nous devons être en contact et en communion les uns avec les autres et avec Dieu. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Ne pas se rendormir, s'endormir, mais dans la connaissance exacte du temps, c'est-à-dire que l'heure est venue pour nous de nous réveiller du sommeil. Il relit le verset 11. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. C'est étrange, que ce soit qu'on lise dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, il y a des écritures, des versets qui ont un caractère prophétique, écrit pour la fin des temps, qu'on a l'impression que Paul ou bien Pierre auraient pu écrire leurs épîtres aujourd'hui. C'est tellement actuel, c'est tellement présent, c'est tellement une réalité. C'est comme si ça a été écrit aujourd'hui. Les paroles de Dieu sont actuelles et réelles pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons reconnu l'heure dans laquelle nous sommes. Paul, Pierre écrit par exemple dans 2 Pierre, le chapitre 1. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique. Oui, mais qu'est-ce que cela veut dire, ce verset, qu'est-ce que cela veut dire? Tu es une partie constituante de cette chose. La parole prophétique nous signifie tout. Parce que Dieu, en elle, nous a révélé son dessein de salut. Si Pierre disait autrefois, par exemple, et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Qui s'étonne de ça? Que aujourd'hui, nous soulignons cela et insistons là-dessus. Nous savons que nous vivons dans un âge prophétique et que cet âge est un âge prophétique. Un âge dans lequel des prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Et qu'est-ce que nous souhaiterions de plus de tout notre cœur, du fond du cœur, que tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur ne retournent pas à leur prédicateur pour qu'ils puissent les renvoyer se rendormir, mais qu'ils puissent comprendre que c'est le Seigneur qui t'a appelé, qui m'a appelé, qui nous a appelés. Car si c'est lui qui nous a appelés, alors dès maintenant, ne te tourne vers aucun homme, mais seulement vers lui, le Seigneur. Alors il te donnera, au temps convenable, la bonne réponse de sa parole. Je lis encore un peu plus, parce que j'ai ça sur le cœur aujourd'hui, de toucher notre vie personnelle de la Bible, par la Bible, et pour voir si, ici et là, nous n'avons pas de manquement. Ici, dans Jacques, tout est, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Dans Jacques, le chapitre 1, il est écrit à partir du verset 19. Jacques, chapitre 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme ne fait pas ce qui est juste devant Dieu. Rejetez donc toute impureté et les derniers résidus de la méchanceté. Et acceptez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui est capable de sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Sinon, vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Car celui qui n'est qu'un simple auditeur de la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui regarde dans un miroir le visage de son corps. Car après s'être regardé et s'être éloigné, il oublie aussitôt l'aspect qu'il avait. Jusqu'ici, c'est verset biblique, jusqu'au verset 24. Je sais qu'il nous parle à tous sérieusement et que cela est nécessaire. Nous en avons besoin. Je vais vous dire aussi pourquoi tout de suite. Pas seulement pour que Christ en nous prenne forme et reçoive la première place, ça aussi, mais pour que aussi les conditions soient créées pour que le Seigneur, dans son Église, encore une fois, de manière surnaturelle, puisse se manifester. Nous portons tous ce désir en nous, n'est-ce pas? Et alors là, c'est nécessaire que chacun soit lent, prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, tout ce qui nous est dit, c'est dans la parole de Dieu. Nous devons l'observer, le mettre en pratique, le recevoir dans notre cœur. L'heure pour cela est arrivée. Nous devons être des gens qui mettent la parole qu'ils écoutent en pratique, si nous prétendons, n'est-ce pas, avoir été appelés par le Seigneur et nous attendre, et prétendons nous attendre à ce qu'il se manifeste et à ce qu'il va se manifester. Alors, nous devons créer les conditions pour qu'il puisse se manifester parmi nous. De nous-mêmes, nous ne pourrons pas le faire. Mais nous devons abandonner notre volonté dans la volonté de Dieu et de tout notre cœur pouvoir dire de moi-même, je ne le peux pas. Seigneur, me voici. Produis-le dans mon cœur et dans ma vie. L'exigence ici est faite, est exprimée. Mettez en pratique la parole, verset 22, et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, sinon vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Qui veut se tromper soi-même? Quand on est déjà trompé par quelqu'un d'autre, c'est déjà assez grave. Mais alors on peut au moins mettre la faute sur celui qui a trompé, n'est-ce pas? Le problème de la question des fautes a été déjà repoussée sur les autres depuis le début, depuis le commencement. Ça a été la nature humaine de remettre les fautes aux autres. Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, et c'est elle. Et la femme a dit, et c'était le serpent, etc. Ça a continué. La faute a toujours remis aux autres. Elle a été poussée, a été mise sur les autres. C'est la nature humaine. Mais ici, dans cette parole, il nous a montré clairement, et aussi dans d'autres paroles aussi, de ne pas se tromper soi-même et de ne pas non plus mettre la faute sur les autres, mais de reconnaître dans la foi, que le problème des fautes a été réglé et que la question des fautes, une fois pour toutes, a été réglée. Sur la croix à Golgotha, nos fautes ont été ôtées. Mais il faut que par notre vie aussi cela soit manifesté, ce que nous croyons. Et cela ne doit pas seulement être une théorie. Il faut que cela devienne vrai. Golgotha doit être la preuve vivante dans notre vie, doit être la preuve vivante dans notre vie. Si nous croyons que notre Seigneur a dit, j'habiterai en vous et je serai avec vous, je serai en vous et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, etc. Alors, il faut que tout cela et beaucoup d'autres promesses aussi deviennent une vérité et vraie dans l'Église. Mais l'Église est constituée, n'est-ce pas, d'individus. Est constitué de nous. C'est pour ça qu'il est nécessaire que chacun individuellement évite tout ce qui pourrait, dans le moindre des choses, apporter de l'inimitié, de la discorde, des conflits. Et que pour que cela soit possible, nous devons, n'est-ce pas, observer ce qui est écrit. Soyez attentifs à conserver l'union de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Et il y a des hommes qui procurent la paix. Et il y a des hommes qui créent des conflits. Mais dans la parole de Dieu, il nous a dit qu'il a été fait de nous des hommes nouveaux qui créent la paix, qui procurent la paix. Il a apporté la paix, il a créé la paix. Et s'il y a sa paix en nous, alors ce n'est pas une paix politique d'apparence, alors c'est une réalité divine. Car il est écrit qu'il est notre paix, lui-même. Alors si nous l'avons, s'il est en nous, alors nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous. Et alors nous croyons que c'est le point que nous ne devons pas seulement tous écouter, mais vraiment tous expérimenter personnellement. Je continue à lire. Et dans, maintenant dans Jacques, le chapitre 2, verset 8. Jacques, chapitre 2, dès le verset 8. Toutefois, Jacques 2, verset 8, si vous accomplissez la loi royale, selon cette parole de l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous agissez avec justice. Ainsi, vous agissez avec justice. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Ici, il est parlé de la loi royale. Qu'est-ce que c'est pour une loi? Qu'est-ce que c'est ça comme loi? Est-ce qu'il y a une loi royale? Ici, il est écrit. Cela est écrit. Et pas seulement ça. Mais en disant même, en donnant comme référence un verset biblique. Vous pouvez lire cela avec moi, mais je vais lire encore Jacques 2, verset 8. Toutefois, si vous accomplissez la loi royale, selon cette parole de l'Écriture, Lévitique 19, verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, vous agissez avec justice. Si vous le faites, vous agissez avec justice. Maintenant, allons dans Lévitique, chapitre 19. Là, c'est écrit. Et allons voir ce que le roi de tous les rois, le roi des rois, qui est aussi le législateur, demande de nous. Il n'y a plus de « vous devez », mais c'est de vivre la vie de Jésus-Christ lui-même à nous. Lévitique, chapitre 19, verset 15. « Ne commettez pas d'injustice en rendant la justice. Ne regardez pas la personne du petit. » Ne favorisez pas non plus le noble, mais jugez votre prochain selon le droit. Ne te promène pas en calomniateur parmi les membres de ton peuple. Ne t'élève pas en justice contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne nourriras pas de haine dans ton cœur envers ton frère, mais tu corrigera sérieusement ton prochain afin de ne pas te charger d'une dette à cause de lui. Tu ne te montreras pas vengeur envers les membres de ton peuple. Tu ne leur garderas pas rancune, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Quelle parole merveilleuse! Ça pourrait être un apôtre qui l'a écrit. Ça pourrait être le Seigneur qui l'aurait dit. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Amen! Amen! C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est sorti de sa bouche. Qui a parlé là? Qui était sur la montagne du Sinaï? Qui a parlé à Israël? Qui a parlé à Moïse? Avec la différence que dans l'Ancien Testament, il était Yahvé, le nom de l'alliance de l'Éternel Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, Yahshua, Yahvé est sauveur. Mais ça, c'est le Seigneur qui a prononcé ces paroles. Il le dit ici, je suis l'Éternel, plusieurs fois. Et nous l'avons déjà assez souvent dit, et frère Branham aussi l'a dit. Et dans ce contexte, Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas seulement une confession des lèvres. Ça, c'est la révélation la plus précieuse que Dieu nous a accordée par sa grâce. Avec cette révélation-là, ça commence. C'est avec cette révélation que les choses commencent. Que ça commence, que tout commence. Et dans cette révélation est contenu tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Celui qui n'a pas cette connaissance, pardon, cette révélation, les autres révélations ne lui seront pas accessibles non plus. Je crois que nous ne sommes pas rendus coupables de ces choses, mais c'est toujours bien de les prendre à cœur, toujours de nouveau. Ne commettez pas d'injustice en rendant la justice. Le verset 15. Combien de fois les gens osent porter un jugement? Qui ose porter un jugement sur l'autre. Ils l'ont même pas écouté. Ils l'ont même pas demandé. Il n'a pas eu à dire un mot, mais ils ont déjà eu leur jugement sur lui. D'après ce qu'ils auraient entendu sur lui, par exemple. Alors que Paul voulait se défendre. Il a dit, mais est-ce que notre loi condamne un homme qui n'a même pas eu l'occasion de se défendre et de parler? Ici, nous parlons de la loi royale. Et nous pourrons encore faire un pas de plus. Pierre écrit, vous êtes un sacerdoce royal. Il y a une descendance divine, une race divine sur terre à laquelle la loi royale s'applique et s'emploie. Aujourd'hui, nous répétons pas ce que d'autres disent, ou alors nous taisons, ou bien alors nous savons de quoi nous parlons quand nous parlons. Le temps est arrivé, sommes-nous prêts à garder nos langues en bride si nous parlons de la loi royale et que c'est le roi des rois qui a parlé? Alors nous devons. Nous, dont il a fait un peuple de rois et de sacrificateurs, nous devons aussi mettre en pratique ce qu'il nous dit, lui, le roi des rois. Ne commettez pas d'injustice en rendant la justice. Ne regardez pas la personne du petit. Ne favorisez pas non plus le noble, mais jugez votre prochain selon le droit. Ne te promène pas en calomniateur parmi les membres de ton peuple. Je dois vous dire quelque chose. Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui ont la nature et la vie de Jésus en eux, qu'il apporte en eux. Il a dit la chose suivante. Vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean. Je suis venu comme roi dans ce monde. Je suis né comme roi dans ce monde pour rendre témoignage pour la vérité, à la vérité. Et ce roi de tous les rois, le roi des rois, a selon son espèce appelé à l'existence une race royale. Nous ne sommes pas quelqu'un de quelconque, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance. Ce dont il a fait pour son Dieu, n'est-ce pas? Des rois et des sacrificateurs. Apocalypse 5, versets 9 et 10, et Apocalypse 1, verset 6, et aussi dans l'épître de Pierre. On pourrait aller dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, parce que là, notre Seigneur dit au verset 37, d'abord, c'est Pilate qui demandait ici, Jean 18, verset 17. Alors, Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, oui, je suis roi. Je suis né dans ce but et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui sont de la vérité, écoutent ma voix. Nous savons ce qui a suivi ensuite. S'il vous plaît, voyez cette image dans l'esprit. Voyez la claire. L'heure est là. Le temps est venu. Où dans la maison de Dieu, un jugement est tenu, intenu. Mais cela ne veut pas dire là où l'un juge l'autre selon ses mesures. Mais là où nous tous, nous nous soumettons au jugement de Dieu et nous disons, Seigneur, nous voici. Fais de nous, selon ta grande grâce et miséricorde, aie pitié de nous. Et nous vivrons, nous verrons que la grâce triomphe du jugement. Et qu'encore aujourd'hui, cela est valable, ce que Dieu disait autrefois. Celui à qui j'ai fait grâce, je lui fais grâce. Dieu le Seigneur appelle maintenant un peuple à sortir, dans lequel il ne permet plus aucun mélange. Où il n'y a pas seulement des gens qui suivent les autres, qui font ce que les autres font, mais des gens qui ont été appelés par le Seigneur, comme Samuel et tous les autres, et beaucoup d'autres. Des gens à qui le Seigneur lui-même a parlé et qui sont prêts à vivre selon la loi royale. Royale, je le répète encore une fois. Qui pourra vivre selon cette loi royale? Seulement ceux qui sont cette race royale, qui forment ce sacerdoce royal. Ce sont ceux-là qui mettront en pratique la loi royale, qui pourront la mettre en pratique. Ce ne sera pas ton effort et mon effort. Ce sera la vie de Jésus-Christ lui-même, le roi des rois, le grand roi et le grand rédempteur, dans les rachetés. c'est lui qui sera manifesté dans cette race royale. Je vais appartenir à ces sacerdoces. Nous devons reconnaître à ce peuple, nous devons reconnaître que le temps est arrivé pour cela. Il est là. Il ne peut pas être encore dans, être remis au futur. Le temps est là. L'heure est arrivée de se réveiller du sommeil et aussi de comprendre cette partie. Ce que veut dire la loi royale. Vous pouvez aller dans le Nouveau et l'Ancien Testament, la loi royale, et vous pouvez le lire. En résumant, je voudrais utiliser ce mot. Elle a été résumée, cette loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. C'est en cela que la loi et les prophètes est contenue. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, si de tout notre cœur, nous pouvons aimer notre Dieu et aussi notre prochain comme nous-mêmes, alors toute la loi par cela et tous les prophètes est contenue dans ces phrases. C'est ainsi que nous sommes apportés à, dans la réalité, mettre en pratique la loi royale en aimant Dieu et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Et j'aimerais lire encore un peu de du serment sur la montagne. Aussi le serment sur la montagne et la sainte et précieuse parole de Dieu, la dernière prédication que notre Seigneur a tenue, nous la trouvons dans Matthieu 5, versets 6 et 7. Je lis ici de Matthieu chapitre 5, et pardon, chapitre 7, le verset 12. Matthieu 7, verset 12. Or, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là l'accomplissement de la loi et des prophètes. Je crois que l'autre traduction dit, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur de même. Ce que nous ne voulons pas qu'il nous soit fait, nous n'avons pas non plus le droit de le faire à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Si nous commençons, que ce soit à parler ou bien à agir, posons-nous nous-mêmes d'abord la question. Si tu étais la personne à laquelle on ferait ce que toi tu es en train de vouloir faire ou bien de vouloir dire à ton prochain, est-ce que tu le ferais? Ou bien est-ce que tu le dirais? Donc aime ton prochain comme toi-même. C'est ce que ça veut dire. On peut l'écouter pendant 1000 ans. Et ne pas avoir compris ce que cela veut dire. Et passer à côté de la chose elle-même. Et aujourd'hui, nous écoutons concernant la loi royale. Pas la loi tu dois, mais la loi royale. La vie de Christ en nous-mêmes qui est vécue pratiquement dans la race royale, dans le sacerdoce royal. Question, qui a ce désir que cela soit avec nous comme ça et cela très rapidement, très bientôt, que Dieu bénisse. Amen, que Dieu bénisse. Le Seigneur voit le désir et il sait exactement que nous ne pouvons pas nous-mêmes le faire. Mais il y a une chose qu'il veut nous montrer aujourd'hui sous nos yeux. Nous devons nous distinguer de tous les autres, pas seulement dans l'enseignement, pas seulement dans la connaissance, mais nous devons aussi dans la vie pratique nous distinguer de tous les autres. Pas seulement que nous ayons la pleine révélation de Dieu, mais Dieu veut aussi se manifester totalement par l'Église. D'un côté, c'est quelque chose de merveilleux, d'une part, que de pouvoir dire que nous n'avons pas seulement les révélations en partie, comme ça qui existait déjà dans le déroulement des âges de l'Église, mais la pleine révélation, nous l'avons. Ça, c'est une chose. Ça, c'est seulement la moitié qui doit d'abord être là, comme première chose, c'est-à-dire la pleine révélation de Dieu. Mais ensuite, nous comprenons que cette pleine révélation de la parole de Dieu que nous avons reçue doit aussi amener l'Église et amènera l'Église dans cet état où Dieu ensuite pourra aussi entièrement se manifester à la fin comme il a pu le faire au commencement dans l'Église primitive. Et autrefois, les croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Il y avait l'amour de Dieu parmi eux. L'amour, la prédication pure et divine, l'enseignement pur et divin, la révélation pure et divine, l'amour pur et divin. Des années plus tard, les choses ont changé. Il y avait déjà des faux frères, des faux enseignements, etc., etc. Vous savez, il y a ce verset dans Corinthiens que Paul mentionne une fois, qu'il y a des hommes qui même se laissent baptiser pour les morts. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a toute une dénomination avec des millions d'adeptes qui se font baptiser pour les morts. Ils ont mal compris cette parole. Je pourrais vous citer le nom de cette dénomination. Oui, ils prennent cette parole de 1 Corinthiens et ne comprennent pas que Paul, là-bas, exprime une remontrance. Et ils prennent cela comme une recommandation. Et ils le font pensant que c'est la volonté de Dieu. Non, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a accordé le discernement. Nous reconnaissons, n'est-ce pas, où est-ce qu'il y a une réprimande et où est-ce qu'il y a une louange, où est-ce que cela est vrai ou est-ce que cela n'est pas vrai. Non. Qu'est-ce que est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui n'est pas la volonté de Dieu? Dieu nous a accordé cette grâce. Mais maintenant, dans notre vie, les choses doivent être aussi vraies et réelles. Dieu doit recevoir ce qui lui revient de plein droit. Tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur de même, premièrement. Je continue maintenant dans Matthieu 7, au verset 24. Ici, il est écrit, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, la pluie torrentielle tomba, les torrents d'eau vinrent, les vents soufflèrent et frappèrent cette maison, mais elle ne s'écroula pas car elle était fondée sur le roc. Qui est le roc? Qui est le roc des âges? Le rocher des âges. Nous sommes fondés sur lui. Il nous a appelés. Et Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Comme sage architecte, j'ai posé le fondement parmi vous, au milieu de vous. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Mais que chacun fasse attention à comment il se bâtit là-dessus. Mais ce fondement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, si nous écoutons la parole et la mettons en pratique, alors nous sommes semblables à cet homme sage dont il est parlé ici. Dans Jacques, nous avons lu dans Jacques chapitre 1, soyez, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, en vous trompant par de vains raisonnements, mais de la mettre en pratique. Et ici, il est montré par un exemple pratique ce qui arrive à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Les pluies torrentielles tomberont, les torrents d'eau viendront et tout ça, mais la maison restera debout. Si nous avons écouté la parole de Dieu et si nous avons ensuite mis en pratique, nous sommes semblables à un homme sage qui n'a pas bâti sa maison sur du sable, mais sur du roc. Il a mis la parole de Dieu en pratique, la parole qu'il a écoutée, la loi royale. Je dois le dire plusieurs fois. Cela a inondé mon cœur. La loi royale, pas affligeante, pas tu dois, mais parmi les rois, et auprès du roi, parce que sa vie est en nous et permet qu'il puisse vivre sa vie en toi, tout simplement. C'est seulement comme ça, en le permettant de vivre sa vie en toi, que tu pourras devenir quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Il est dit ici que celui qui écoute ces paroles, qui sont les miennes, et qui les met en pratique, est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Qui veut être cet homme sage? Mais ici, il est parlé des vierges sages aussi dans Matthieu 25. Mais aussi ici, un homme sage. Pas seulement des vierges sages, mais un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et qui est cet homme, que ce soit frère ou sœur? Qui est cette personne ou bien ces personnes-là qui sont ces personnes, hommes ou femmes? Ceux qui entendent ces paroles qui sont les miennes et qui les mettent en pratique. Ils sont semblables à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Que les vents soufflent, que la pluie torrentielle tombe, que les torrents d'eau viennent. La maison reste debout. Elle ne s'écroule pas parce qu'elle est bâtie, fondée sur le roc. Écoutez la prochaine personne à partir du verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Alors la pluie torrentielle se mit à tomber, des torrents d'eau vinrent, les vents soufflèrent et se déchaînèrent contre cette maison. Elle s'écroula et sa ruine fut immense. Nous avons alors deux groupes de personnes. Les uns écoutent et ne mettent pas en pratique. Les autres l'écoutent et la mettent en pratique. Font ce qu'ils écoutent. Que Dieu puisse accorder sa grâce d'appartenir à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. La parole qu'ils écoutent, je le répète encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais avons-nous ce désir aussi en nous de vivre la parole de Dieu, de donner la possibilité à Dieu dans notre vie et par notre vie de faire devenir en nous une réalité divine, ce qui nous fait écouter dans sa parole. J'ai dit au Seigneur une fois après une prédication sur la restauration de toutes choses, peut-être même plusieurs fois, j'ai dit: Seigneur, fais de moi un exemple, fais de nous un exemple vivant de ta restauration. La restauration comme une réalité divine. Pas comme une parole dans nos bouches, mais comme une parole confirmée dans notre vie. Que notre vie soit restaurée elle-même. Et alors, à cela appartient la sanctification, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit et de feu. Il y en a qui sont incertains parce que dans la prière, beaucoup de choses humaines ont été faites. Et les gens se sont éloignés de ces choses, se sont éloignés de l'action surnaturelle de Dieu. Et sûrement qu'on aurait pu presque dire: est-ce que tout cela n'est pas de la tromperie? Non, c'est pas tout qui est de la tromperie. Il faut qu'il doit y avoir encore quelque chose d'authentique. Dieu n'est pas mort. Jésus-Christ vit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous ne sommes pas prêts à remettre tout entre les mains du diable. Non. Pour qu'il puisse seulement propager des imitations. Non, nous voulons nous tenir à la disposition de Dieu pour que aussi des choses authentiques et vraies soient propagées et manifestées. Combien ont cette foi scripturaire que si nous demandons à Dieu l'Esprit et des dons qui viennent de lui, qui croit qu'il ne nous donnera pas des scorpions ou bien des serpents, comme il a dit? Mais il nous donnera ce que nous lui demandons, car c'est ainsi qu'il a dit. Combien plus Dieu donnera-t-il son Saint-Esprit, son Esprit et des bons dons à ceux qui lui demandent? Si nous lui demandons de son Esprit, alors croyez-moi, alors il ne nous donnera rien d'autre que son Esprit. Il accordera son Esprit, il vivifiera de manière nouvelle. Et dans ses ossements morts et tous ceux qui sont endormis, il fallait, n'est-ce pas, que la vie divine s'introduise, vienne. Je vous dis, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais nous nous tenons à la disposition du Seigneur pour qu'il puisse, avec nous et à travers nous, faire ce qu'il veut. La loi royale, l'accomplissement des Écritures, aime l'Éternel Dieu ton, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, et ton prochain, comme toi-même. En fait, c'est même pas difficile, n'est-ce pas? Le deuxième commandement est similaire au premier. De tout notre cœur, aimer Dieu, et ensuite nous aimer les uns les autres, et aimer son prochain comme soi-même. Et cet amour divin est ensuite l'accomplissement de tout ce qui est demandé de nous dans la loi et dans les prophètes. Tout est résumé dans l'amour de Dieu et les uns pour les autres et pour le prochain. sans effort de nous-mêmes. Mais nous devons nous mettre à disposition du Seigneur et lui dire, Seigneur, comme Marie le disait, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait comme tu le veux, ou bien fait en moi comme tu l'as dit. » Samuel a reçu l'ordre. Si le Seigneur t'appelle encore, dis, parle Seigneur, ton esclave serviteur, écoute. Ésaïe écrit, donne-moi des oreilles comme des disciples pour que je puisse bien écouter comme écoute un disciple. Et alors, pour que je puisse consoler ceux qui sont fatigués, Dieu le fera en tous ceux qu'il a fait sortir du monde, qu'il a pris du monde, à qui il s'est révélé, à qui il a fait connaître son nom, sa parole, qui maintenant reconnaissent dans quel temps et heure ils sont arrivés. Nous sommes arrivés. Tous ceux qui appartiennent à cette race royale, à ce saint sacerdoce de sacrificateur, ils recevront de Dieu la puissance de mettre la parole de Dieu en pratique. Et c'est ainsi que la foi grandira. Et pour que Dieu puisse aussi faire des choses plus grandes qu'il a fait jusqu'à maintenant. Car la promesse, n'est-ce pas, le Seigneur l'a donnée. Il a dit, je vais vers mon Père, mais celui qui croit en moi fera encore des œuvres plus grandes que celles-ci. Résumons ensemble. Le Seigneur, c'est lui qui nous a appelés. Peut-être que l'un et peut-être l'autre, ou bien peut-être tous, se sont eux-mêmes, peut-être soi-même, tranquillisés, ou bien ont été tranquillisés par les autres. Allez-vous endormir. Non, ça peut plus continuer comme ça, comme Élie a fait avec Samuel. Même si je ne le dis pas ici à haute voix, mais je crois que sa parole, profondément, pénètre dans notre cœur et nous reconnaissons que nous ne vivons pas il y a 20 ans, bien 10 ans passés, mais que nous vivons maintenant, en 1987. Et je le dis, là, et je cite, en citant la parole, l'heure est maintenant plus rapprochée qu'autrefois, alors que nous avons cru, comme on a lu dans Romains 13. Le temps est plus proche. L'heure s'est rapprochée. Plus rapprochée que dans le temps dans lequel nous avions écouté le message divin et nous avons cru. Je pense que tous nous ressentons profondément dans notre cœur que le Seigneur est en train de faire quelque chose. C'est peut-être raison qu'il y a des difficultés, des épreuves comme jamais auparavant, des épreuves comme jamais auparavant, des problèmes comme jamais auparavant. Et il y en a qui se souhaitent une vie sans épreuves. Alors ça veut dire que vous vivrez sans Dieu. Avec Dieu, il y a toujours des épreuves. Mais vaut mieux vivre avec Dieu, pas des épreuves, que sans Dieu, sans épreuves. Persévérons, comme il est écrit dans Jacques 5. Persévérez, tenez ferme. Et soyez patient. Prenez comme exemple la patience et la persévérance des prophètes. Et même les mêmes écrits, regardez Job et la fin que le Seigneur lui a accordée par grâce. Ne regardons pas aux circonstances. Ne regardons pas à ce que les hommes ou bien l'ennemi fait. Non, regardons au Seigneur et reconnaissons maintenant. Pensons à la première prédication. Reconnaissez le jour et son message. Reconnaissons maintenant, aujourd'hui, après tant d'années, que le temps et l'heure se sont rapprochés. 20 ans plus proches qu'autrefois. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes ceux à qui Dieu parle. Ne vous laissez plus entraîner dans quelque chose. Éloignez-vous de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Vivez la loi réelle. Prions les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Vivons pour Dieu. Pour que Dieu, dans chacun de nous, puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit. Et que nous puissions, de tout notre cœur et de toute notre âme, l'aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est en cela qu'est tout l'accomplissement de toute la loi et des prophètes. Et c'est ainsi que nous constaterons que tel que Dieu, n'est-ce pas, toutes ces révélations en partie là, il a tout résumé et rassemblé il les a redonnés, ordonnés, classés bibliquement par sa grâce. D'une manière que, comme Paul, nous pouvons le dire, nous vous avons annoncé tout le dessein de Dieu. Les vérités en partie, les connaissances en partie, sont devenues des connaissances entières, des vérités entières. Et nous avons la pleine vérité du plein évangile. Nous l'avons entendu. De l'évangile valable éternellement, la pleine vérité du plein évangile. Et maintenant, nous attendons avec droit à la pleine confirmation de Dieu. Si la parole était là à moitié et qu'elle a été pleinement restaurée, maintenant il faut que la puissance, il faut que tout ce qui existait dans l'église primitive soit dans toute sa plénitude de nouveau restauré aujourd'hui. Et là je me rappelle très rapidement à cette parole de l'épître aux Colossiens que nous avons seulement besoin de croire et de s'attendre à ce que le Seigneur l'accomplisse. Car ici il est écrit, je crois que c'est Colossiens ou bien Philippiens, allons voir dans quelle parole c'est. Quoi que ce soit, il est écrit que vous possédez en lui toute la plénitude qui est la, le chef, la tête. Vous connaissez cette écriture qui l'a ouverte déjà, s'il vous plaît. Oui, j'ai regardé et je ne l'ai pas vu. C'est écrit ici, Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et en lui, vous possédez toute la plénitude. En celui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est aussi la tête de l'Église, le chef de l'Église. Et l'Église est son corps. Paul l'écrit, l'Église, nous le sommes. Nous sommes l'Église, l'Église. Des premiers-nés. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous et nous fortifie dans la foi tous et nous accorde de la force, de la puissance et du courage pour aller de l'avant. Car, et c'est-à-dire cela jusqu'à que nous passions de la foi à la vue et que avant que nous puissions de face à face voir le Seigneur, puis-je vous dire, nous verrons encore plusieurs choses qu'il fera personnellement dans son Église et parmi son peuple. Il se manifestera encore une fois. Il ébranlera encore le ciel et la terre. Pas toi et moi, mais lui, c'est lui qui le fera. Et à lui, moi, je le crois tout simplement. Je crois tout simplement. Il peut le faire. Je crois. Il prononce qu'un seul mot. Et avant, et puisqu'il a déjà prononcé, cela va s'accomplir. N'est-ce pas? Si c'est seulement maintenant qu'il devait maintenant prononcer ces choses, nous n'aurions pas de promesses. Mais puisqu'il les a déjà prononcées, alors nous savons qu'elles vont s'accomplir. Et dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, il est écrit aussi. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et cela, et ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Nous pouvons le lire même dans Hébreu 12, verset 27. Que Dieu soit remercié pour sa parole révélée. Que Dieu soit remercié pour la plénitude qu'il nous a accordée par sa grâce. Avec patience, mais dans la foi, nous nous attendons maintenant au reste que Dieu lui-même fera. Aussi certain qu'il a promis, loué et exalté, soit son saint nom. Amen. Amen. Levons-nous pour la prière pendant que les têtes sont courbées et les yeux sont fermés et les cœurs sont ouverts. Laissez-moi demander, est-ce que quelqu'un est ici que le Seigneur a appelé? Pas un homme, mais le Seigneur. Vous ressentez cet appel et vous ne vous tournez vers aucun homme. Mais vous venez au Seigneur, car il dit, venez, suivez-moi. Prends ta croix sur toi et suis-moi. Alors le jour arrive où nous déposerons la croix, nous la changeons avec la couronne. D'abord vient un temps de douleur et après la gloire. D'abord les batailles, après la victoire, ensuite la victoire. Mais que Dieu soit remercié qui nous a accordé déjà la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la foi qui vient des Écritures, la foi qui vient de la prédication de la parole de Dieu, est la foi et la victoire qui a déjà triomphé du monde pendant que les têtes sont courbées et que nous sommes ici dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait brièvement lever les mains comme signe que vous voulez consacrer votre vie au Seigneur? Levez les mains alors rapidement. Merci, 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 merci. Le Seigneur bénisse, vous bénisse. Le Seigneur nous bénisse tous, nous bénisse tous. Oh, que nous puissions très bientôt pouvoir être nommés les bénis du Seigneur selon la parole de l'Écriture. Comme le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une bénédiction. J'avais que le premier verset seulement, avec la loi royale, avec la race royale, et les autres m'ont été accordés comme ça pendant la prédication. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'a rendu possible par Golgotha, où il a versé son saint sang. Et il appela à l'existence une descendance royale, une descendance divine, des fils et des filles de Dieu, qui sans effort mettent en pratique la loi royale, la parole royale. Ils peuvent la mettre en pratique parce que le Seigneur nous accorde la puissance pour le faire. Nous chantons encore une fois tel que je suis sans rien de moi. Et alors, plusieurs frères pourront remercier brièvement. Père Céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Même si elle est apportée dans la faiblesse, elle a en elle toute la puissance de Dieu pour produire ce qu'elle dit, ce que nous entendons dans la prédication. Seigneur, je te remercie pour cela aussi, de ce que tu as. Tu feras de nous de telles personnes, des hommes qui marchent dans tes voies et qui mettent ta parole en pratique et qui pleinement dans la foi seront restaurés sans crainte et sans doute, te font confiance et vivront leur restauration. Tu es digne de foi, ça nous l'avons souvent dit. Accorde-nous maintenant cet état devant ta face que nous pourrons prendre, que nous devons prendre et devons prendre pour que tu puisses te manifester. Accorde ta grâce pour que ces attaques ou bien alors ce qui se passe avec nous et contre nous ne nous afflige pas. Accorde-nous la grâce d'être toujours nouvellement fortifié et fortifie tous les frères et les sœurs, chaque frère et chaque sœur, chaque frère et chaque sœur. Fortifie les mains et les genoux languissants. Fortifie-nous. Et manifeste-toi maintenant, aussi maintenant, dans ta puissance, par le salut, par la guérison, par la délivrance. Seigneur, aussi certain que tu as entièrement restauré ta parole. Tous les mystères, tu les as révélés. Aussi certain aussi, tu restaureras. Tu manifesteras ta puissance dans l'Église restaurée, dans toute sa plénitude, pour que par ta puissance, ta pleine puissance, ta pleine parole soit confirmée parmi ton peuple. Fais de nous cette descendance royale, ce saint sacerdoce royal qui est digne de toi, parce que dans ce contexte, c'est écrit, je suis saint et vous devez être saint. Bien-aimé Seigneur, conduis-nous maintenant dans la sanctification. Pas une sanctification que nous produisons nous-mêmes, mais sanctification dans la vérité, dans l'esprit de la vérité, dans la parole de la vérité. C'est-à-dire de mettre en pratique ce que ta parole nous dit dans tous les différents domaines de notre vie. Demeurer dans le cadre de ta parole. Penser dans le cadre de ta parole. Agir et marcher dans le cadre de ta parole. Accorde-le-nous pour que ainsi ton nom parmi nous soit sanctifié. Bien-aimé Seigneur, il est saint. Mais il doit être sanctifié par nous, à travers nous, oui, parmi nous. Nous te remercions encore une fois de tout notre cœur pour tout. Nous te demandons aussi de bénir tous les frères. Bénis le frère Barillier, bénis le frère Étienne, bénis le frère Foresteri, bénis tous les frères proches et loin. Bénis à l'est, à l'ouest, dans toutes les langues et les pays et les nations. Ouvre les portes, bien-aimé Seigneur, tel que nous l'avons attendu. Les portes s'ouvrent toujours plus vers les pays de l'Est, de l'Europe. Tu as dit, Seigneur, que cet évangile du royaume, n'est-ce pas, sera prêché à toutes les nations comme un témoignage. Et toi-même, tu prendras saint pour cela. Tu feras en sorte que cela soit possible. Loué soit ton saint nom et ton merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Amen.